Vous écoutez On lit pour vous.
Aveugle et entrepreneur, ce couple de fermiers non-voyants élève des cannes en Estrie. Un texte de la rédaction paru le 12 septembre 2024 dans Urbania. C'est derrière une petite maison bleue de Stockley-Sud que se cache une ferme de production d'œufs de canne gérée par deux entrepreneurs aveugles, un couple soudé par la résilience. Derrière, le nom, à la canne blanche, symbole de leur condition, se cache une histoire de détermination, de solidarité et d'un amour inconditionnel pour les animaux. La vie après le diagnostic. Tout commence avec un diagnostic accablant. Daniel est né avec un glaucome congénital qui aurait dû le rendre aveugle dès la naissance. Les médecins ont toutefois réussi à lui sauver la vue jusqu'à ses 20 ans. Maryse, quant à elle, a une maladie génétique héréditaire qui la condamnait à la cécité avant l'âge de 50 ans. « On me l'a annoncé à 17 ans », explique Maryse, dont le sourire ne décolle pourtant pas. Si la perte de la vue a transformé leur quotidien, ça ne les a pas empêchés de poursuivre des rêves qu'ils ignoraient avoir avant que l'aventure de la ferme ne se présente à eux. De la solitude à 1400 cannes. Il y avait une vie avant la ferme. Quand le nid familial s'est vidé, Maryse et Daniel étaient tous les deux parents. Ils ont senti un certain vide, comme beaucoup de gens qui, après avoir consacré des années à une carrière ou à l'éducation de leurs enfants, se retrouvent forcés à faire table rase. Toute la gang part de la maison, on se retrouve seul. Une vie sur la tablette depuis 20 ans, confie Maryse. C'est la fille de Maryse qui a vu que quelque chose devait changer. Elle m'a dit, « Maman, essaye ça. C'est des petits oiseaux, tu vas t'amuser avec ça. » C'est donc avec deux cannes, un canard et six poules que Maryse a démarré l'aventure de « À la canne blanche ». Produire 425 œufs par jour. Aujourd'hui, l'entreprise prospère avec 1400 cannes divisées en des dizaines de petits enclos destinés à leurs jeunes et vieilles pondeuses, pouvant produire près de 425 œufs par jour. Un chiffre impressionnant pour une ferme gérée par des entrepreneurs qui ne voient pas, mais qui perçoivent la vie avec une sensibilité et une détermination hors du commun. C'est pas toujours facile, admet Maryse, mais elle et Daniel se raccrochent à l'amour qu'ils portent pour leur canne et cette autonomie que leur permet le fait de travailler dans leur propre cour. « Colin, la vie est quand même belle », lance Maryse. Entre innovation et tradition. Leur modèle d'affaires repose sur un respect profond des animaux et de l'environnement. Leurs œufs de canne sont prisés par les restaurateurs locaux et les marchés fermiers qui saluent non seulement la qualité de leurs produits, mais aussi leur approche humaine et responsable. Loin d'être un simple projet entrepreneurial, À la canne blanche est devenu un symbole d'inclusion et de dépassement de soi. À travers leur succès entrepreneurial, Maryse et Daniel témoignent du fait que l'entrepreneuriat est une avenue possible pour tous. Un modèle inspirant. Leur histoire, plus qu'une simple aventure agricole, est un témoignage vibrant de la capacité de l'humain à s'adapter et à innover même face aux défis les plus grands. « On a notre entreprise dans la cour », lance Maryse avec fierté, « et même si chaque jour présente son lot de difficultés, c'est leur fermeté d'esprit et leur optimisme inébranlable qui ne laisse personne indifférent. » Au-delà de la cécité, Maryse et Daniel montrent qu'avoir une vision, ça ne passe pas par les yeux, mais bien par le cœur et la volonté de bâtir quelque chose avec les moyens que la vie nous offre. C'était aveugle et entrepreneur, ce couple de fermiers non-voyants élève des cannes en Estrie, un texte de la rédaction paru le 12 septembre 2024 dans Urbania.
Les 10 secrets des personnes économes, mais pas tristes, un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 13 octobre 2024 dans la presse. C'est bien connu, la vie des cigales est une partie de plaisir. Les fourmis ont plutôt le moral dans les talons. Comment pourrait-il en être autrement, puisqu'elles s'affairent constamment à se bâtir des réserves de nourriture? Cette façon de voir les choses s'exprime de mille et une manières autour de nous. Cette semaine, au bureau, un collègue a déclaré qu'en suivant les conseils pour économiser, on se retrouve avec une vie triste. Un avis assez répandu, si l'on se fie aux statistiques sur l'endettement, qui m'a encouragé à retourner lire un texte bien tourné du Toronto Star, énumérant les secrets des personnes ultra-frugales. Sa phrase d'introduction, « Beaucoup de gens très économes sont très satisfaits de leur vie. » C'est important de le mentionner et de le répéter, car cela semble contre-intuitif, notamment pour ceux qui s'achètent des vêtements ou des écouteurs sans fil à crédit. Ce groupe est fort bien garni puisque les Canadiens affichent le taux d'endettement le plus élevé de tous les pays du G7, et de loin. Pour chaque dollar gagné, les ménages doivent 1,84 $, alors que la moyenne est légèrement au-dessous de 1,25 $. Vous imaginez tous les intérêts qui seraient économisés si notre ratio était ramené au même niveau que dans les autres pays? J'ai demandé à l'économiste Benoît Durocher de Desjardins s'il pouvait estimer la somme que ça représente. Les données disponibles ne le permettent, hélas, pas. Mais on parle clairement de milliards de dollars, m'a-t-il assuré. Vous imaginez tout ce que l'on pourrait faire d'intéressant, d'utile et de constructif avec cette montagne d'argent. Jouons maintenant avec les trucs de Leslie Ann Scorgie, celle qui signe le papier du Toronto Star. Pour chacun, attribuez-vous une note sur 10 pour obtenir un résultat final sur 100. Cette auto-évaluation vous donnera une idée de votre marge de manœuvre pour améliorer votre taux d'épargne. 1. Ils vivent en dessous de leurs moyens. C'est le truc de base. Les plus frugaux configurent leur vie en fonction de 80% de leurs revenus. Ça peut être 75%, ça peut être 85%. Mais l'important, c'est de se leurrer soi-même sur ses revenus et d'économiser la différence. Calculer la somme en argent que représentent ces 20% sur chaque paye et dresser la liste de dépenses que vous pourriez éliminer pour garnir votre CELI ou rembourser votre carte de crédit. Éliminez en priorité tout ce qui ne vous rend pas plus heureux. 2. La budgétisation comme mode de vie. Les économes suivent, vérifient, peaufinent et surveillent leur budget. Ils savent où va leur argent et quand les coûts augmentent ou diminuent. Ce n'est pas plus compliqué de comprendre un outil de budgétisation que de suivre un pool de hockey avec des centaines de statistiques qui changent constamment. Parole de mes rigoureux collègues des sports. 3. La chasse aux aubaines les amuse. Garder son argent si durement gagné pour soi peut devenir un jeu, tout comme la recherche de bonnes affaires, de soldes et d'offres en tout genre. Selon la même logique, les frugaux maximisent l'utilisation des points de fidélité. Ils échangent leur maison pour voyager. Ils consultent des sites de comparaison de prix. 4. Leur dette pour des actifs, pas pour la consommation. Les économes se limitent aux bonnes dettes, celles qui sont garanties par un actif, dont la valeur devrait augmenter. Ils achètent des biens immobiliers, développent leur entreprise et investissent, mais évitent d'avoir un solde sur une carte ou une marge de crédit. 5. Ils ne plaisantent pas avec leur stratégie financière. Même s'ils font une série de choses par eux-mêmes pour économiser, la plupart ne construisent pas leur propre plan financier. Ils ont consulté un professionnel qui leur a bâti un plan complet qui tient compte des impôts, de la croissance des investissements, des risques et des besoins de la vie. 6. Comme dans le sport, la constance est la clé. Prendre l'habitude d'investir régulièrement et systématiquement est un ingrédient crucial. Ce peut être à chaque paie ou chaque mois. Pendant les périodes où leurs revenus sont plus faibles, les ultra-frugaux ne cessent pas d'économiser. Ils adaptent leurs contributions. 7. Ils essaient de réduire leurs impôts. Sans faire d'évasion fiscale, ils utilisent des stratégies pour payer moins d'impôts, comme cotiser à un REER, un CELI, un REEE, un CELIAP. Ils profitent aussi de tous les crédits d'impôts, frais médicaux, services de garde, dons de charité. 8. Ils sont sur la même longueur d'onde que leurs partenaires. Le désalignement financier est coûteux, tranche Madame Scorghi. Les couples qui épargnent parlent d'argent entre conjoints et planifient leurs finances en équipe. J'ajouterai qu'il faut ramer dans le même sens, grâce à des valeurs communes. Difficile à faire pour une fourmi et une cigale qui partagent le même lit. 9. Le bonheur n'est pas dans l'argent, mais dans ce qu'il procure. Les économes n'ont aucune difficulté à conserver leur motivation car ils comprennent que leur argent leur donne de la flexibilité. Ça peut être pour la retraite, pour des voyages, pour prendre une année sans solde, pour aider ses enfants. Trouvez votre propre synonyme de la liberté, celui qui catalysera votre intérêt à épargner. 10. Pouvoir fermer le robinet illico. Le dernier truc vient de ma collègue Camille Dauphinet-Pelletier qui privilégie les petits luxes qui s'éliminent sans souci lors des mois plus serrés ou advenant un gros pépin, perte d'emploi, toit qui coule. Aux abonnements annuels et aux locations à moyen terme, chalet auto, elle préfère les restaurants et le plein air. Ma note me vaudrait un beau A dans un bulletin. Et je ne suis pas triste du tout. Vous. C'était « Les 10 secrets des personnes économes, mais pas tristes », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 13 octobre 2024 dans la presse.
Huit façons surprenantes de valoriser vos résidus alimentaires. Un texte commandité paru le 29 septembre 2024 dans La Presse. Pelure de citron, queue de fraise, tige de fines herbes, marque de café, tous ces savoureux résidus alimentaires atterrissent trop souvent au compost ou, pire encore, à la poubelle. Sachant que chaque année au pays, près de 63% des aliments jetés ou gaspillés, auraient pu être consommés. Pourquoi ne pas apprendre à revaloriser les mal-aimés et à tirer pleinement profit de chaque aliment? Suivez le guide. 1. Invitez les queues de fraises dans vos smoothies. La prochaine fois que vous aurez le réflexe de reléguer vos queues de fraises au compost, rappelez-vous qu'elles sont comestibles, débordantes de saveurs et riches en bienfaits pour la santé. Les façons de les utiliser en cuisine sont nombreuses, la plus simple étant sans doute de les passer dans vos smoothies. Les queues de fraises peuvent aussi connaître leur heure de gloire dans une tisane ou encore dans une limonade. 2. Collectionnez vos tiges de fines herbes pour faire une sauce chimichurri. En raison de leur texture coriace, les tiges de fines herbes sont souvent boudées. Halte là! Leurs saveurs se révèlent aussi intéressantes que celles des feuilles. Alors toutes les raisons sont bonnes pour les conserver au congélateur. En quelques coups de robot culinaire, vous aurez une délicieuse sauce chimichurri à utiliser en guise de marinade ou de condiment. 3. Donnez une seconde vie à un fond de beurre d'arachide. Pas assez de beurre d'arachide pour tartiner une dernière rôtie? Plutôt que de rincer le pot et de l'envoyer directement dans le bac de recyclage, c'est l'occasion de préparer une sauce à l'arachide. Il suffit d'ajouter, à même le pot, de la sauce tamari, un soupçon de sirop d'érable, de l'huile de sésame grillée, ainsi que de l'ail et du gingembre émincé. Brassez le tout vigoureusement et l'affaire est réglée. 4. Transformez vos pommes de terre germées en nouvelle récolte. Ah, le fameux sac de pommes de terre oublié au fond du garde-manger. Et si vous sortiez vos talents d'horticulteur pour transformer le problème en solution? Vous n'avez qu'à planter vos pommes de terre dans un grand pot, germes vers le haut, à 10 cm de profondeur. Quand les feuilles de vos plants sont fanées, c'est signe que la récolte est prête. 5. Faites déshydrater vos pelures de citron pour concocter un sel aromatisé. Un sel aromatisé au citron. Rien de plus simple à faire. Commencez par faire déshydrater vos pelures de citron au four à 100 degrés Celsius ou 200 degrés Fahrenheit pendant une trentaine de minutes. Vous pourriez aussi les laisser sécher sur le bord de la fenêtre durant quelques jours. Ensuite, broyez-les et invitez-les dans votre main à sel. 6. Récupérez le liquide de vos conserves de pois chiches pour préparer une mayo. Connaissez-vous l'aquafaba? Ce liquide gélatineux dans lequel baignent les pois chiches en conserve recèle des possibilités insoupçonnées en cuisine. Vous pouvez notamment créer une délicieuse mayonnaise végane en moins de 15 minutes. Il s'agit d'une excellente solution de rechange aux œufs qui peut même servir d'ingrédient de base aux guimauves maison et aux meringues. 7. Cuisinez un beurre aromatisé avec vos fans de radis. Vous croyez peut-être que les feuilles de radis sont de simples résidus alimentaires. Au contraire, elles sont tout aussi délicieuses que les radis eux-mêmes. Qui plus est, on leur attribue plusieurs vertus, notamment pour la digestion. Voilà autant de bonnes raisons de leur donner une place de choix dans vos recettes. 8. Intégrez le marc de café à votre granola maison. Quoi de mieux qu'un bol de granola caféiné pour démarrer la journée en force? Commencez par faire sécher votre marc de café à l'air libre pour éviter qu'il moisisse. Ensuite, il ne vous reste plus qu'à l'ajouter à votre recette de granola préférée. Mélangé avec de l'huile de coco, le marc de café peut aussi faire office de gommage doux pour le corps. C'était 8 façons surprenantes de valoriser vos résidus alimentaires. Un texte commandité, paru le 29 septembre 2024 dans La Presse.
Un révolutionnaire pro-américain au Panthéon québécois, Un texte de Dave Noël paru le 17 octobre 2024 dans Le Devoir. Le révolutionnaire canadien-français Clément Gosselin, qui a combattu les Britanniques lors de la guerre d'indépendance américaine de 1776, sera désigné personnage historique par le gouvernement du Québec jeudi le 17 octobre 2024. L'idéal pour lequel il se battait, c'était la liberté, explique le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, en entrevue avec Le Devoir. Si Gosselin est une figure inspirante au point d'obtenir une place au registre du patrimoine culturel, qu'en est-il de sa cause? Le Québec aurait-il été mieux servi en devenant le 14e État de la République américaine en 1776? Je ne suis pas du tout là-dedans, rétorque Mathieu Lacombe. Je ne sais pas à quoi ressemblerait le Québec aujourd'hui. La candidature de Clément Gosselin a été proposée il y a près de 2 ans par la municipalité de Sainte-Famille de l'île d'Orléans, dont est originaire le maître charpentier. Son approbation par le ministre a surpris le biographe du révolutionnaire Gaston Deschênes. « Je n'y croyais pas trop, parce qu'on honore quelqu'un qui est ambigu, un rebelle qui a combattu le gouvernement, les autorités. » L'historien a constaté l'effroi suscité chez certains de ses proches à l'idée que leurs ancêtres auraient pu devenir Américains à la fin du 18e siècle. Il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on l'a échappé belle. Mais attention, les États-Unis de l'époque, ce n'étaient pas ceux d'aujourd'hui. Il n'y avait pas de pouvoir central fort. C'était 13 colonies qui essayaient de vivre ensemble. Rebelles. La désignation de Clément Gosselin survient à l'approche du 250e anniversaire de l'invasion américaine du Québec, menée en 1775. Cette année-là, les insurgés occupent Montréal et Trois-Rivières avant d'encercler Québec. Ils en profitent pour lever 2 régiments de Canadiens qui prennent les armes pour combattre la tyrannie britannique. Clément Gosselin se porte volontaire. Au cœur de l'hiver, le charpentier de 28 ans arpente la côte du Sud pour recruter des soldats. Il lit également les proclamations du Congrès de Philadelphie aux portes des églises, en faisant prêter le serment de fidélité aux rebelles. L'arrivée de renforts britanniques à Québec en mai 1776 entraîne le repli des Américains. Gosselin entre alors dans la clandestinité en réalisant des opérations d'espionnage pour le général George Washington. Il rejoint ensuite son régiment d'expatriés canadiens avec lequel il combat jusqu'au siège décisif de Yorktown, en Virginie, où il est blessé en 1781. Le major Gosselin est démobilisé à l'approche du traité de paix de 1783, qui reconnaît l'indépendance des États-Unis et le maintien du Québec dans le giron britannique. Après avoir vécu à cheval sur la frontière, le vétéran termine ses jours à Big Man Town, dans l'État de New York. « Je suis agréablement surpris de voir qu'il a été reconnu comme personnage historique », affirme Gaston Deschênes, d'autant plus que ça ouvre la perspective à d'autres figures qui ont milité pour l'indépendance du Québec. Symbolique. Clément Gosselin est le 104e personnage historique désigné par Québec depuis la création de cette catégorie en 2012. Mais n'importe qui peut suggérer des candidats. Je pourrais moi-même faire une demande, explique Mathieu Lacombe. Les propositions reçues par le ministère sont analysées par le Conseil du patrimoine culturel avant d'aboutir sur le bureau du ministre. Sur le principe, je ne pense pas que j'en ai refusé. Les désignations sont faites à la pièce, reconnaît Mathieu Lacombe. On manque de perspectives pour bien prévoir la mise en valeur des grands Québécois et des grandes Québécoises. C'est un des mandats qu'on va donner au tout nouveau Musée national de l'histoire du Québec. Au fait, à quoi servent ces nominations? C'est une bonne question, et on me la pose tout le temps, relate le ministre. Je répondrai à cela que c'est d'abord et avant tout symbolique, mais que les symboles sont importants. Mathieu Lacombe donne l'exemple de l'Ordre national du Québec qui décerne des titres de chevalier, d'officier et de grand officier depuis 1985. Ça ne donne aucun privilège, mais c'est une marque de reconnaissance. Et c'est la même chose pour la désignation d'un personnage historique, à la différence que celui-ci nous a malheureusement quittés depuis bien longtemps. Les premiers ministres du Québec ont une place assurée dans ce panthéon symbolique à leur décès, indépendamment de leur réalisation et de la durée de leur mandat. Les gouverneurs et les intendants de la Nouvelle-France ont eux aussi eu droit à un laissez-passer. L'intendant François Bigot, 1703-1778, a ainsi été désigné en dépit de ses deux années passées à la Bastille et de sa condamnation à l'exil en 1763 pour son administration corrompue du Canada à la veille de la conquête britannique. Diversification. Entre 2012 et 2014, le gouvernement péquiste de Pauline Marois a nommé 57 figures historiques, dont une seule femme, Jeanne Mance, 1606-1673, qui est aujourd'hui considérée comme la cofondatrice de Montréal. Les libéraux de Philippe Couillard ont ensuite adoubé 13 personnalités en 4 ans, dont Alexander Tiloche Galt, 1817-1893, l'un des 36 pères de la Confédération canadienne. Le registre s'est récemment diversifié avec l'approbation de la candidature d'Olivier le Jeune, le premier esclave noir établi sur le territoire actuel du Québec, arrivé en 1629, et de Laouinonki, Marguerite Vincent, 1783-1865, une artisane huronne Wendat qui a fondé une boutique de mocassins pour touristes dans la décennie 1830. Il y a un peu d'arbitraire là-dedans, relève Gaston Deschênes, l'historien qui a œuvré pendant près de 30 ans à la bibliothèque de l'Assemblée nationale, était présent en 2013 lors de la désignation de Samuel de Champlain dans le cadre du 405e anniversaire de la ville de Québec sur la terrasse Dufresne. Le ministre de la Culture de l'époque, Maca Couteau, arrive et nous déclare que Champlain est un personnage historique, dit-il en riant. On s'en doutait un peu. C'était un révolutionnaire pro-américain au Panthéon québécois. Un texte de Dave Noël paru le 17 octobre 2024 dans Le Devoir.